pluie, la catastrophe. Malgré le luxe, la gloire, il y a eu l'éclat. D'un coup, la décade, tout s'est effondré. Le jeune homme demande, ils sont ruinés? Non, mais c'est la famille qui s'est effondrée. Non, ils sont très riches. Ils sont liés, plus ou moins, avec le groupe Gentoo. Vous savez, le groupe le plus puissant du monde. Les ordinateurs, la biotechnique, l'ADN. Moi, je ne mange pas de ces saloperies. J'ai mon jardin. Des tomates sont des tomates et pas des boules de ping-pong rouges. Depuis la vache folle, je mange plus de viande. Et vous? Et je l'homme lui dis, moi, je ne sais pas. Je ne fais pas attention à ce que je mange. Je crois que je mange dans les restaurants ou hôtels. Le chauffeur lui dit, faites attention, il y a même eu, j'ai lu dans le Progrès, des agriculteurs qui ont été dévorés dans leurs champs à blé, par leur blé, du blé carnivore mangeur d'hommes. Et comme c'est écrit dans le Progrès, comme on dit, c'est la vérité. Le jeune homme lui dit, c'est un peu gros. Le chauffeur lui dit, et les hommes oiseaux, les chimères, comme ils disent, on croyait que c'était du cinéma. Eh bien non, c'est la réalité. Bientôt, ils vont faire revivre les dinosaures et les pharaons. Comme on dit, on vit un monde virtuel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis sûr qu'on va voir des choses bizarres. Ah, voilà arrivé. Je vous arrête là, je le demande. Nous sommes Galé Lafayette? Oui. Ben oui alors. Et le chauffeur s'arrête devant les galeries Lafayette. Je vous dois combien? Le chauffeur lui donne le prix. Il paye et sort du taxi. Une fois qu'il est sorti du taxi, il se demande pourquoi il est venu ici. Il décide d'entrer dans le centre commercial. Il y a du monde, mais surtout des gens qui se promènent ou regardent. Il entre dans un café. Le café se trouve dans une allée transversale. Il commande un jus d'orange. Tout en buvant, il se dit, bon, je suis à Lyon, je dois trouver un logement et du travail. J'ai bien envie, c'est de trouver le logement ici, dans le quartier. C'est bien situé, il y a de tout.
Madame, s'il vous plaît. J'ai l'impression que le temps passe à une vitesse aujourd'hui.
J'ai l'air énervée.
Après avoir bu,
fatiguée.
Il quitte le café. Et sort du centre commercial. Et se dirige vers la rue Garibaldi. Lorsqu'elle croise le cours Lafayette, puis elle prend une petite rue parallèle à la rue Garibaldi, la rue Barrier, petite rue tranquille. Elle voit une fenêtre d'un immeuble, au premier étage, une pancarte, allouée, avec le nom de la régie. L'immeuble est moderne, assez propre, il décide d'aller se renseigner. Il voit que l'adresse de l'agence est deux rues plus loin, rue Juliette Récamier. Il est entré dans l'agence, c'est un porte-porte, un peu sombre et pas très grand. Une femme, grande, mince, brune, en robe grise, va vers lui. vous désirez, monsieur ?
Bonjour, madame. J'ai vu un panneau qu'un appartement était alloué au 42 rue Barrier.
Oui, c'est un petit studio. Ce n'est pas très grand, mais agréable.
Cela me suffit. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Et puis, il est très bien situé. Vous pouvez me le montrer ?
Oui, bien sûr, monsieur. Je prends les clés et je vous le montre.
Du petit studio qui se trouve dans un palier où il y a 5 portes. Montrez. Il entre. Petit couloir avec placard, penderie, interphone, pièce principale avec meubles, rangement et lit abattable. Une table, 3 chaises, un réfrigérateur, une plaque chauffante, une porte qui donne à la salle de bain. Voilà. Elle demande, cela vous va-t-il ?
Oui, très bien. J'espère que ce n'est pas trop cher.
1600 francs par mois, plus les charges, qui ne sont pas trop importantes.
Bien, je les prends.
Bien, monsieur. Allons signer le bail à l'agence. Et sortent du studio.
C'est ce qu'ils font. Une heure plus tard, il est dans son petit chez-soi. Il fait la liste de ce qu'il lui faut. Je vais à la Part-Dieu et j'achète tout ce dont j'ai besoin. 2 heures plus tard, il a acheté des draps, une couverture, des assiettes, couverts, casseroles, un peu à manger et ce qu'il faut pour l'hygiène.
Il range le tout. Fait son lit. Une fois qu'il a fait tout ça, il s'assoit sur une chaise.
Il se trouve assis, à ne rien faire. Il est encore trop tôt. Un grand vide le prend, et ce vide lui donne le cafard. Il se demande ce qu'il est venu faire dans cette ville. Pourquoi Lyon ? Il ne connaît personne. Mais pourquoi pas, de toute façon, il n'a aucune attache. Une demi-heure plus tard, après avoir dîné, il décide d'aller se coucher.
Il est fatigué de cette journée. Thank you.
la rue, les lumières de la ville l'empêchent de dormir. Et puis, il a l'impression, c'est que chaque fois qu'il entend des pas sur le palier, une clé que l'on tourne dans la serrure, il a l'impression que l'on cherche à entrer chez lui. Cela lui fait peur. Cela lui fait peur, il a l'impression qu'on va entrer chez lui. Et puis, toutes ces lumières, tous ces bruits, et ce lit qui est nouveau, avec ses draps neufs, des ombres qui ne peinaient pas encore, des ombres de chez lui. Enfin, toutes ces choses qui font que l'on est mal, à l'aise, lorsque l'on est dans un endroit que l'on ne connaît pas pour dormir. De la nuit où il arrive à s'endormir. Le jour levé, les peurs s'en vont. Il s'endort jusqu'à demeure, jusqu'à 9 heures, d'un sommeil profond, sans rêve.
Réveillé, il se lève, va à la salle de bain, s'habille, prépare son petit déjeuner. Bon, faut que je trouve du travail maintenant. Il le faut parce que l'argent file vite. Il réfléchit. Et toujours le même nom lui vient à la tête. Ponts-toi. Ponts-toi. Pourquoi Ponts-toi? Peut-être a-t-il lu son nom dans un des magazines. Allons, on ne sait jamais. Il sort de chez lui.
demande à un passant comment faire pour aller sur les quais de Rhône direction Gerland. On lui donne la direction à prendre.
Mais c'est loin.
Merci, je verrai bien. Et il se met à marcher. Il suit le cours Lafayette jusqu'au quai du Rhône. C'est long. Arrivé au quai du Rhône, il longe le quai à gauche. Le trajet est long, mais pas désagréable. Il y a des arbres, le fleuve, et l'on suit tout droit. Après un long moment de marche, il arrive à Gerland. Après la caserne des soldats, deux rues plus loin, sur les quais face au Rhône, se trouve le groupe Pontoise, avec ses immeubles, ateliers, etc. Et à côté le groupe Dieppe, l'usine du père de Gallien. Le groupe Pontoise est bien plus important. Je ne vous le décrirai pas, car vous y êtes déjà entré plusieurs fois du temps de M. Pontoise père, c'est-à-dire Félicien. Les bâtiments sont restés les mêmes. Et ça ressemble toujours à une petite ville miniature avec ses rues, feux, etc. Il demande au garde qui est devant l'entrée, un garde en costume de garde avec casquette et tout, grand homme fort, 30 ans, cheveux blonds. J'aimerais voir le service d'embauche.
Vous avez rendez-vous ?
Non,
nous n'embauchons pas pour le moment. Et ne le faisons que par demande écrite.
Il lui dit, oui, mais moi c'est un peu spécial, j'étais un ami de Monsieur Pontoise.
Monsieur Pontoise ?
Oui, Monsieur Félicien Pontoise, et j'ai même travaillé pour lui pendant un certain temps.
Vous appelez comment ?
Maurice Dufer.
Garde lui dit, veuillez attendre, monsieur.
Et il entre dans un bureau. Il téléphone. Puis revient vers Maurice et lui dit,
la directrice des relations humaines veut bien vous recevoir, monsieur. Suivez-moi.
Et Maurice le suit. Le garde le mène à un immeuble de verre, l'immeuble des relations humaines. À l'entrée, fleurs, tableaux, fauteuils, table basse, hôtesse d'accueil habillée en tailleur rouge. Ils vont vers l'ascenseur.
Qui monte jusqu'au 10e.
Moquette au sol. Hall d'entrée, fleurs, fauteuil, bureau et hôtesse. Le garde va vers l'hôtesse et lui dit,
je vous amène ce monsieur. Il n'a pas rendez-vous, mais la directrice veut le recevoir.
L'hôtesse regarde Maurice, une grande blonde, tailleur rouge, et dit,
asseyez-vous, monsieur.
Et le garde s'en va.
Maurice, une fois assis, attend. L'hôtesse va vers lui. Là, un petit calepin.
Monsieur, pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît ?
Maurice Dufer.
Âge ?
25 ans.
Adresse ?
42 rue Barrier.
Vous êtes venu pour quoi ?
Pour un emploi.
Nous n'en avons pas pour le moment, monsieur.
Même pas pour moi ? Je suis un ami de monsieur Félicien Pontois.
Pontois ? Félicien ? Vous avez travaillé pour lui ?
Je l'ai aidé pour certaines choses très délicates.
Et soupire. Bien, nous allons vous recevoir.
Et elle retourne à sa place.
Le téléphone a sonné. Elle répond.
Oui, il est là. Non, rien. Bien.
Elle se lève et va vers Maurice. Et lui dit,
Madame la directrice des relations humaines veut bien vous recevoir. Venez me suivre, monsieur.
Il se lève et la suit. Elle frappe à une porte. Elle ouvre la porte.
Entrez, monsieur.
Il entre. Elle a fermé la porte derrière lui.
La pièce est grande, carrée, meublée moderne, grand luxe. Verre et cuir blanc, plantes vertes, grande baie vitrée. Une femme en tailleur rouge, rousse, dans les 30 ans. L'on voit qu'elle n'a rien sous son tailleur, même pas un chemisier, complètement nue. Maurice, en la voyant, se dit que ça doit être une sacrée chienne. Les ongles longues comme ça, en rouge, bracelets, boucles d'oreilles, et ce n'est pas de la pacotille et du bon goût.
Elle lui dit, « Asseyez-vous, monsieur Dufour. Dufer. »
Il va s'asseoir en face d'elle.
Elle lui dit, je m'appelle Nathalie Savoie et je suis directrice des relations humaines, chef du recrutement.
Il se dit qu'elle ne doit pas avoir beaucoup de travail puisqu'on ne le recrute plus.
Vous avez demandé à me voir, monsieur, je vous écoute.
Il lui dit, eh bien voilà madame, je viens d'arriver à Lyon et je cherche du travail. Et j'ai pensé que peut-être...
Elle lui demande, pourquoi avez-vous pensé à notre entreprise ?
Eh bien, c'est que j'ai travaillé il y a quelque temps pour votre patron, M. Félicien Pontois.
Elle le regarde bien et lui dit, et quel genre de travail ?
Très particulier, je lui ai rendu un très grand service.
Elle lui demande, vous ne pouvez pas m'en dire plus ?
Non, pas vraiment.
Elle soupire et lui dit, bon, vous désirez quoi comme poste ?
Il lui dit, un emploi tranquille et bien payé.
Eh bien, vous au moins vous êtes franc.
Mais je n'ai pas ça.
Écoutez, si vous êtes vraiment un ami des Pontois, allez voir M. Lucien Pontois, le fils. Vous pourrez mieux lui parler. Moi, je ne suis rien. Je ne peux rien pour vous. Je ne suis qu'un employé. Là, ça m'a l'air un peu personnel. Allez le voir et vous verrez.
Maurice va sonner à la propriété de Lucien, qui était celle de ses parents. Vous connaissez aussi, puisque vous y êtes déjà entré plus d'une fois et que rien n'a changé. Il sonne au portail. À l'interphone, une voix lui demande
« Oui ?»«
J'aimerais parler à Monsieur Pontois. »«
Qui êtes-vous ?»«
Monsieur Maurice Dufer, un ami du père de Monsieur Lucien. »«
Bien, je vais voir. »
Maurice attend un moment. Puis la voix dit
« L'on veut bien vous recevoir. Entrez. »
Et entendre des clics qui ouvrent le portail, Maurice entre. Il suit la route de gravier qui mène jusqu'à la maison. Monte le perron.
Sonne à la porte. La porte s'ouvre. C'est le majordome de Pontois.
Entrez, monsieur.
Il entre. La porte se referme. Et le majordome le mène au salon du premier étage. Frappe à la porte.
Entrez, monsieur.
Maurice entre. Lucien est assis dans un fauteuil. Il se lève. Il va vers lui.
Vous avez demandé à me voir, monsieur ?
Oui, monsieur, je suis une connaissance à votre père que j'ai beaucoup aidé pour des affaires délicates avec d'autres personnes.
Vous êtes monsieur Maurice Dufer.
Mon père ne m'a jamais parlé de vous.
Maurice lui dit, c'est normal, c'était des choses très spéciales.
Lucien lui dit, écoutez, dites-moi ce que vous voulez.
J'aimerais, c'est du travail avec une bonne somme pour pouvoir vivre tranquille.
Lucien lui dit, je ne peux pas vous offrir ceci. Je suis navré.
Maurice lui dit, c'est bien dommage. Je suis venu exprès de Paris pour ça.
Lucien lui dit,
eh bien, il fallait rester.
C'est ce que je me dis. Mais je ne peux pas faire autrement que de venir.
Et pourquoi personne ne vous y force ?
Non, mais il faut que je fasse certaines choses. Si je ne les fais pas, cela me rend malade.
Lucien ouvre ses épaules et lui dit, vous êtes fou, il faut vous faire soigner.
Peut-être bien, mais je ne serai pas capable de voir un médecin, car j'ai des choses à faire. Je dois les faire, sinon cela me rend malade.
Et pourtant, je ne sais même pas pourquoi je dois faire ces choses.
Lucien lui dit, je suis vraiment navré pour vous, mais je ne peux rien.
Vous ne me demandez même pas quel service j'ai donné à votre père.
Non, cela ne m'intéresse pas.
Maurice lui dit, j'étais l'un des tueurs qui a tué Pierre de Saint-Auban.
Non, c'est pas possible.
La porte s'est refermée derrière Maurice.
Lucien sort la pièce en courant.
Le couloir n'y est déjà plus. Et regarde par-dessus les escaliers et crie.
Où êtes-vous ? Je veux savoir.
C'est faux.
Non.
Il descend en vitesse les escaliers. Au rez-de-chaussée, il n'y a personne. Va ouvrir la porte de la maison. Oh, revenez! Personne dans le parc. Il court jusqu'à la sortie. Pour ouvrir le portail. Il a ouvert le portail, la rue est vide. Lucien retourne à la maison. Dans le hall, il appelle le majordome. De suite. La personne qui était avec moi, vous l'avez vu partir ? Jordan lui dit :
Non, monsieur.
Lucien lui dit : Il est parti tellement rapidement que je n'ai même pas voulu lui dire au revoir. Merci. Lucien, abasourdi, monte à sa chambre. Il veut réfléchir en paix. Sa chambre se trouve au deuxième étage.
Celle du bureau. La sœur Maurice, sur la pointe des pieds, les longs couloirs, descend les escaliers, et va ouvrir la porte de la maison.
Il va jusqu'à la sortie du parc.
Appuie sur un bouton pour faire ouvrir la porte et sort du parc.
Il se trouve dans la rue. Vite, il descend la rue pour aller au centre de Lyon. Car comme vous le savez, la maison de Pontoise se trouve dans une petite rue sur les hauteurs de Fourvière et la rue domine tout Lyon. Assis dans sa chambre, se dit « Ce n'est pas possible. Mon père n'a pas pu faire une chose aussi terrible. Tuer Pierre de Saint-Auban, mon ami, ce serait la chose la plus horrible qui soit. »
parenthèse. Je sais, Pierre de Saint-Auban, c'est 3500 pages avant. Mais il faut suivre, Coco. David revient de la radio. Il demande au domestique, où est Lucien ?
Je crois que monsieur est dans sa chambre.
Bien, j'y monte. Préparez-nous le thé au salon.
Bien, monsieur.
Et David monte à la chambre de Lucien.
Entrez. Il entre. Trouve Lucien allongé sur son lit. Tout habillé. Il va vers lui.
Elle lui demande, tu es malade ?
Non, pas vraiment.
Que se passe-t-il ?
Lucien lui dit,
il est venu cet après-midi un homme qui m'a dit une chose.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.